Bonjour, bienvenue sur CFG. Nous sommes vendredi 6 avril, il est midi. Dans cette nouvelle émission, nous vous présenterons une page économie avec notamment les automobiles, la révolution numérique et les bitcoins. Quelques actualités sur le monde vous seront communiquées. Notre dossier spécial sur les océans, les littoraux et leurs richesses menacées. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de culture et de sport. Pâques est passé depuis quelques jours. Le pape a prononcé son discours traditionnel et en a profité pour lancer un message de paix.
Le pape François a célébré la traditionnelle messe de Pâques à Saint-Pierre de Rome devant des centaines de milliers de fidèles, massés, entassés, encadrés par d'importantes mesures de sécurité. Il a appelé à la paix et à une solution politique en Syrie, pendant la messe solennelle de la résurrection.
Que de sang a été versé, que de souffrances devront encore être infligées avant qu'on réussisse à trouver une solution politique à la crise, s'est exclamé le pape François dans un discours Urbi et Orbi. Il a aussi évoqué le conflit israélo-palestinien, la violence en Irak et prié pour que le Mali, la République démocratique du Congo, retrouve unité et stabilité.
Après ce discours du pape François, axé sur la paix dans le monde, nous avons appris le décès de Winnie Mandela ce lundi 2 avril à 81 ans. Aux États-Unis, les manifestations contre les armes à feu continuent.
États-Unis. Samedi 24 mars, à Washington, une manifestation contre la libre circulation des armes à feu a réuni plus d'un million d'Américains. Emma Gonzalez est une rescapée de la fusillade du 14 février qui a eu lieu dans son lycée. Elle a pris la parole lors de cette manifestation et est restée à la tribune pendant 6 minutes et 20 secondes, le temps qu'il a fallu au tireur pour tuer 17 personnes.
Afrique du Sud. Winnie Mandela, la deuxième épouse de Nelson Mandela, est morte le lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Elle a consacré sa vie à la lutte pour les droits des Noirs d'Afrique du Sud. Cette femme populaire a été, avant de divorcer en 1996, une icône de l'histoire du pays.
Encore aux États-Unis. Parker, Solar Probe et la sonde de la NASA qui décollera au mois de juillet. Cette sonde voyagera pendant 7 ans en orbite autour du Soleil. L'objectif est de comprendre comment anticiper les tempêtes solaires et les éruptions solaires.
Espagne, fait divers. Un camion de cirque a eu un accident le lundi 2 avril sur une autoroute en Espagne, dans le centre du pays. Le camion transportait 5 éléphants, l'un d'entre eux est mort et 2 autres ont été blessés. De mémoire d'éléphant, on n'a jamais vu ça. Santé. En vous promenant dans la forêt, avez-vous déjà pensé à enlacer les arbres pour les sentir, les observer ou encore toucher leurs écorces? Partout dans le monde, la mode se multiplie. Les bains de forêt, une tradition japonaise ancestrale qui consiste à entrer en communion avec les arbres pour se ressourcer et peut-être même rester en bonne santé. Alors si vous vous sentez stressé, enlacez un arbre.
L'économie ne cesse d'évoluer avec notamment les automobiles qui deviennent électriques et connectées. La chronique de Corentin.
La modernisation au service de la planète ou non ? Coup dur pour Tesla. La firme américaine a lancé une campagne de rappel concernant 123 000 véhicules produits avant avril 2016, suite à la détection d'un problème pouvant altérer le système de direction. Compagnie pétrolière, constructeur ou concessionnaire, l'adoption massive du véhicule électrique pourrait bouleverser le marché et mettre en difficulté certains acteurs historiques de la filière automobile. Alors que les véhicules particuliers représentent 20% de la demande mondiale de pétrole, les fournisseurs de carburant devraient également souffrir du développement de l'électrique. Selon les prévisions mondiales, la demande de pétrole devrait diminuer d'environ 15% d'ici 2035. L'automobile du futur, électrique et connectée, est au cœur de la révolution électrique. La voiture connectée est un véhicule disposant d'un système de communication embarqué qui offre un accès à Internet via les réseaux sociaux de téléphonie mobile et également grâce à un équipement intégré au véhicule. Car oui, l'industrie automobile est celle qui pèse le plus lourd dans l'économie mondiale.
Notre société est également touchée par la révolution numérique. Corentin, que peux-tu nous en dire ?
On appelle la révolution numérique le bouleversement profond des sociétés survenues dans les pays industrialisés et provoquées par l'essor de l'informatique et d'Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau planétaire des individus et par de nouvelles formes de communication, courriels et réseaux sociaux. L'ordinateur est l'élément clé du phénomène de la révolution numérique. À la fin des années 1970, les premiers ordinateurs personnels sont fabriqués à grande échelle et ne cesseront de se développer jusqu'à maintenant. De grands hommes ont marqué la révolution numérique, comme Steve Jobs, né à San Francisco en 1955 et mort en 2011, qui est souvent qualifié de visionnaire. Il est également une figure majeure de l'électronique grand public, notamment comme pionnier de l'ordinateur personnel, du baladeur numérique, du smartphone ou encore de la tablette tactile. L'iPhone X a prononcé iPhone 10 a été présenté lors du keynote Apple du 12 septembre 2017. Selon Apple, ce smartphone représente le plus grand bond technologique pour l'industrie du smartphone depuis le tout premier iPhone de 2007. Avec ce vaisseau amiral, la firme de Cupertino compte poser de nouvelles bases pour les 10 prochaines années.
La révolution numérique ne touche pas que le secteur de l'électronique grand public, mais aussi et surtout le secteur économique. Max, notre journaliste, nous explique.
Le Bitcoin est une monnaie virtuelle. Elle est connue pour son gain astronomique pouvant varier de plusieurs milliers d'euros. D'ordinaire, lors d'un transfert d'argent en euros, par exemple, le paiement passe par la banque pour surveiller si le virement a bien été effectué. Tandis que le Bitcoin, lui, est transféré directement au destinataire sans le moindre point de passage. Le Bitcoin peut être obtenu de trois façons. En l'échangeant en totalité ou en partie contre des euros ou des dollars, en étant rémunéré en Bitcoin, en programmant des ordinateurs pour créer des Bitcoins, les récolter, puis les stocker, mais cette technique que l'on appelle le minage n'est pas recommandée car elle est illégale et que les ordinateurs consomment beaucoup d'électricité. Au final, le minage rapporte moins que la facture d'électricité. Le créateur du Bitcoin est toujours inconnu à ce jour. L'inventeur présumé serait Satoshi Nakamoto.
Nous allons maintenant ouvrir notre dossier spécial consacré aux océans et au littoral. Nous nous pencherons plus particulièrement sur l'environnement autour de l'estuaire de la Seudre et de la mer des Pertuis. Nous parlerons des richesses que contient ce littoral et les menaces qui pèsent sur ce milieu. Pour cela, nous avons reçu Pierre-Yves Chevalier, le directeur des ports de l'estuaire de la Seudre. Il va nous faire part de son parcours.
Quels sont vos diplômes ?
Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai surtout un DUT en hygiène et sécurité version environnement. Et puis, j'ai surtout aussi une grosse expérience, longue expérience professionnelle plutôt, qui m'a permis de faire un métier de base, mon métier de base, mais aussi différentes autres métiers depuis et qui m'amène aujourd'hui au poste que j'occupe.
Quel métier avez-vous fait ?
Alors, j'ai travaillé dans mon domaine de base, donc la protection de l'environnement, la santé et la sécurité au travail, dans différents secteurs d'activité, donc avec des problématiques variables et différentes à chaque fois. Je suis arrivé progressivement dans l'administration territoriale et dans la gestion d'ouvrages portuaires. Et donc aujourd'hui, au-delà des ouvrages portuaires, je m'occupe de diriger un syndicat qui a pris la compétence sur les ports de l'estuaire de la Seudre et qui va devoir gérer l'ensemble des activités portuaires sur ce secteur géographique avec les usagers, l'entretien des ouvrages, la construction de nouveaux aménagements, l'adaptation aux évolutions des usages dans les ports, de manière à toujours être en parfaite harmonie avec toutes ces évolutions.
Quels sont les aménagements qu'on trouve sur les ports ?
Les aménagements sont très divers, très variés. Ça va d'espace d'accostage pour le navire, donc il peut être un quai, une cale, une station à carburant pour justement avoir le carburant dans le moteur du bateau, un espace pour sortir le bateau de l'eau, donc une aire de grutage, une aire d'entretien, de carénage pour l'entretien des navires, des espaces à terre pour stocker la marchandise, le matériel, et là en l'occurrence le matériel ostréicole, pour stocker les tables, les poches. Ben voilà, on a divers aménagements, c'est assez varié, des constructions, des cabanes, des établissements ostréicoles qui se transforment, qui deviennent des restaurants ou des dégustations, des ouvrages hydrauliques aussi pour gérer les niveaux d'eau dans les bassins, assurer l'écoulement de l'eau du marais qui est en amont. C'est très 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 varié.
Et pour finir, aimez-vous votre métier ? Si oui, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ?
J'aime mon métier, oui, je l'aime, et en plus, celui-ci, je l'ai particulièrement choisi, donc c'est quand même un privilège, et j'en suis bien, bien conscient. Et ce que j'aime surtout dans ce métier, ce n'est pas tant ce côté technique que l'on évoquait à travers les aménagements et les équipements, c'est plutôt tout le côté relationnel, le fait d'être acte avec des usagers qui ont des besoins différents, soit les ostréiculteurs, les professionnels de la croisière, les plaisanciers, les restaurateurs, les personnes qui viennent sur le port pour le visiter tout simplement. C'est un métier de contact et j'aime ça.
Nous avons eu également l'intervention de Samuel Payet, un jeune marin pêcheur. Il nous a raconté les différentes facettes de son métier, les études et les formations nécessaires pour l'exercer.
Alors, ce métier, je l'ai choisi par passion de la mer. J'ai eu des activités extérieures comme le loisir, la voile et puis la pêche avec mon père. Et puis le métier, ça m'a attiré parce que à force de me balader avec mon père sur le port et aller avec, dans le bateau avec lui, bah, ça m'a donné envie. Et aussi, d'entendre les vieux récits des anciens marins, toutes les histoires qu'on peut avoir, ça m'a donné un potentiel pour m'attaquer au bateau.
Quelles études faites-vous ?
Alors, les études que je fais, je suis actuellement au lycée maritime de La Rochelle, en première, bac pro, CGEM.
Comment s'organisent vos cours, quelle matière avec vous ?
Alors, mes cours s'organisent, on a une partie pratique, c'est tous les cours professionnels, comme réparer les filets, réparation des moteurs, on peut avoir aussi. On peut avoir navigation, les points de sèche, les règles CRA. Et après, la deuxième partie, bah, c'est partie théorie et rapport de mer, le français, les maths, l'anglais maritime et anglais normal.
Quel avenir y a-t-il pour ce métier ?
Le métier, il y a de l'avenir si on fait dormant, comme du genre les palangres, les filets. Si on fait un métier durable par rapport à la mer, un métier que les écologistes ne sont pas contre.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Alors, les avantages de ce métier, bah, c'est voir des beaux paysages, s'en aller tôt le matin, voir des choses magnifiques, voir le beau temps sur la mer. Et les inconvénients, c'est s'en aller très très tôt le matin, par exemple s'en aller à 2h du matin et rentrer le soir vers 18h. Pas choisir son temps aussi, qu'on peut sortir beaucoup de pluie, sortir avec du brouillard, quand la mer est un peu formée, quand il y a un peu de vagues, un peu de mauvais temps.
Y a-t-il des risques dans ce métier ?
Les risques dans ce métier, c'est quand on envoie le matériel pour le mettre à l'eau, de ne pas se faire prendre par des hameçons, ou quand on déploie les filets, de ne pas se faire prendre les bras ou envoyer les casiers pour ne pas s'en mêler dans la corde des casiers.
Merci.
Pour finir, Jean-Baptiste Bonin, le directeur du centre CPIE de Marennes-Oléron, va nous parler de sa formation, de son association IOD, de la tradition de la pêche à pied et des menaces climatiques sur le littoral.
Quelle étude avez-vous fait ?
Oui, donc j'ai fait l'université de sciences naturelles. Je voulais être prof de sciences naturelles. Et puis, j'ai passé la licence, la maîtrise de sciences nat.
Quelle est votre expérience professionnelle ?
J'ai été obligé de faire l'armée, mais je l'ai fait en civil, dans une association de protection de l'environnement. C'est un métier qui m'a plu. En plus, l'association m'a embauché suite à mon service. Donc, du coup, j'ai fait 6 ans là-bas, dans le Pinail, là, dans la Vienne, comme animateur nature, et puis après responsable de l'animation nature de la structure. Ensuite, j'ai voulu changer un petit peu d'environnement et je me suis retrouvé en bas du Vercors pendant 10 ans, dans une association aussi de protection de l'environnement, dont j'étais directeur du coup. Et puis après 10 ans, donc l'océan m'a rappelé un petit peu à l'ordre, et donc je suis revenu sur l'île de Léron où j'ai pris une petite retraite d'un an pour réfléchir à tout ça, et puis ensuite avec quelques amis et quelques habitants, on a monté l'association IOD, dont je suis aujourd'hui le directeur depuis sa création, depuis 2004.
Que veut dire IOD ?
L'association IOD, au départ, a été créée pour animer une démarche de développement durable sur le territoire, c'est-à-dire essayer de convaincre les habitants, les élus, les techniciens des services, qu'en procédant d'une certaine manière, on arrivait à se rapprocher du développement durable. Par exemple, on a essayé de prôner, au lieu du tri des déchets, qui est très bien, mais on a essayé de prôner l'économie de déchets. Pareil pour l'énergie renouvelable, c'est très bien, mais il faut aussi penser à économiser l'énergie, à avoir des démarches plus sobres. Voilà, c'est des nouveaux réflexes qu'on a essayé d'appliquer. Donc IOD, ça veut dire Île de Léron Développement Durable Environnement, donc ça s'écrit avec 2D. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la pêche à pied, et ensuite on a pu se diversifier à partir de 2010, on a vraiment pu aborder d'autres sujets, beaucoup plus variés. Et là, on a essayé de demander en même temps le label CPIE, donc le label est accordé par l'Union Nationale des CPIE, et ça ouvre l'accès aussi à tout un réseau, puisqu'il y a 80 associations labellisées en France, et donc on a beaucoup d'échanges entre nous, il y a à peu près 1000 professionnels de l'environnement, il y a des actions dans tous les territoires, donc c'est vraiment très intéressant de faire partie de ce réseau. Donc CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, initiative au pluriel, Et donc on a ce label depuis 2011. Et ça nous permet effectivement de travailler vraiment sur la durée, sur le territoire.
Depuis combien de temps la pêche à pied existe?
Oui, la pêche à pied, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ça existe depuis vraiment de l'humanité, puisqu'on a des traces dans des gisements archéologiques qui datent de moins de 200 000 ans à la pointe de l'Afrique du Sud. Donc c'est des pratiques très anciennes. Les peuplades avaient ce réflexe d'aller à marée basse bien chercher de la nourriture finalement, puis après des coquillages pour décorer, pour utiliser à la cuisine comme outil, comme bol, comme outil coupant, et puis comme monnaie, comme parure aussi, bijoux. Voilà, donc c'est une tradition qui date d'il y a très longtemps, puis sur Oléron ça a toujours aussi plus ou moins existé. Donc c'est pas un peuple de marins, les Oléronais, c'était plutôt un peuple de pêcheurs à pied, comme on dit, ou en tout cas d'agriculteurs qui utilisaient aussi la côte pour aller chercher quelques protéines. Donc c'était une pêche de subsistance, comme il en existe à peu près partout dans le monde, dans les endroits où il y a des marées basses. Mais depuis, donc c'est un loisir qui s'est... Enfin, c'est devenu petit à petit un loisir, en fait. C'est après une activité de subsistance, ça a évolué vers une activité de loisir, et depuis une cinquantaine d'années, c'est vraiment très majoritairement une activité de loisir. Les gens ne comptent plus sur les coquillages pour se nourrir, mais par contre, ça attire beaucoup de monde, puisqu'en France, on estime que c'est à peu près 2 millions de Français qui pratiquent la pêche à pied, plus ou moins régulièrement ou occasionnellement. Et sur Oléron, c'est 225 000 personnes par an qui se succèdent sur nos estrons. Donc un véritable sujet de développement durable, parce qu'évidemment, c'est une pression énorme sur le milieu naturel.
Et voilà Remana, notre journaliste, qui va nous faire le bilan de cette interview.
Jean-Baptiste Bonin pense que le projet Pêche à pied est une réussite. Les pêcheurs connaissent mieux la réglementation, ils ont pris conscience de la fragilité de l'estran, remettent les pierres retournées en place et limitent les quantités pêchées. Il nous a aussi rappelé que d'autres menaces pèsent sur le littoral. Le réchauffement climatique pourrait faire disparaître une partie de l'estran, la qualité de l'eau est dégradée par la pression touristique, l'urbanisation et les pratiques agricoles. Enfin, des pollutions du type marée noire sont toujours possibles. Pour préserver les richesses du littoral pour les générations suivantes, il nous faut changer nos habitudes de consommation, énergie, alimentation, déchets, et montrer plus de respect pour l'environnement.
Fin de la première partie, nous nous retrouvons pour le sport et la culture.
Bonjour, ici Max pour vous annoncer la page sport. Betty va vous présenter la partie sport au collège.
Nous avons réalisé un court sondage auprès de 4 classes de niveaux différents de notre établissement. Ce sondage n'est pas scientifique et ne peut prétendre à s'étendre à l'ensemble du collège. Nous nous sommes intéressés aux sports pratiqués par les collégiens. En moyenne, plus de la moitié des collégiens font du sport. Les activités physiques les plus pratiquées sont la danse, le handball, le football, l'équitation et le vélo. Ces activités permettent aux collégiens de se défouler, de s'évader pour oublier l'école qu'ils trouvent parfois un peu trop pesante. Ils arrivent ainsi à mieux se concentrer. Ils ont, pour certains, la passion du sport souvent transmise par leurs parents. L'envie de se dépenser, de participer à des compétitions en équipe ou seul. Nous vous incitons à avoir une pratique sportive régulière pour rester en bonne santé et garder la forme. Au collège, l'association sportive organise différentes activités, comme la course d'orientation, le surf, le raid, le futsal, etc. L'association compte 151 adhérents. Les activités les plus demandées sont le futsal, l'escalade et la gymnastique rythmique. Nous encourageons les élèves à participer à l'UNSS et nous félicitons l'équipe de futsal qui est championne académique et l'équipe de gymnastique rythmique et d'escalade qui participeront à l'avenir.
Mathis va nous parler du calendrier de la Coupe du Monde 2018.
Moins de 3 mois avant la Coupe du Monde de football, voici le calendrier des Bleus. Le 15 mai, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera la liste des 23 joueurs qui représenteront la France durant la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie, en juin et en juillet. Pour préparer cette échéance, les Bleus disputeront 2 matchs amicaux. Tout d'abord face à l'Italie le 1er juin, puis face aux États-Unis le 9 juin. Nous attendons le début de cette compétition avec impatience. La France est dans le groupe C. Elle affrontera dans l'ordre l'Australie, le Pérou et le Danemark pour essayer de passer la phase de poule. Au classement FIFA, la France est au 9e rang, loin derrière l'Allemagne et le Brésil qui font office de favoris pour cette édition.
Culture, cinéma.
Il y a 2 semaines, toutes les classes de 3e sont allées voir le film Hors-jeu, dans le cadre de collège au cinéma. Je laisse maintenant la parole à Benjamin.
Ce film est sorti en salle le 6 décembre 2006. Il a été réalisé par Jafar Panahi avec Sima Mobarak Chachi, Safadar Samanda. L'action se passe à Téhéran, à l'occasion d'un match de foot qualificatif pour la Coupe du Monde 2006. Il met en scène des filles rêvant d'assister à ce match. Celles-ci se font repérer. Vont-elles pouvoir réaliser leur rêve? A priori, on est tenté de dire oui. Sauf qu'on est en République islamique d'Iran où une femme n'a pas le droit de se rendre dans un stade. Ce film, qui est tourné comme un documentaire, pose la question de la place de la femme dans la société iranienne. Corentin et Lali vont nous donner leur avis de spectateur qui n'est pas tout à fait le même.
Alors, j'ai trouvé ce film certes un peu répétitif, mais également et surtout très démonstratif sur les droits de la femme dans un pays comme l'Iran où les interdictions sont bien plus nombreuses que chez nous en Europe. D'ailleurs, nous en voyons bien l'exemple dans le stade de foot présent dans le film avec l'interpellation des jeunes femmes par les gardes.
Pour moi, ce film aurait pu être très intéressant, mais je le trouve très lent et répétitif. Les scènes veulent dire la même chose, donc ne véhiculent qu'un seul et même message, qui devient ennuyeux à force de l'entendre tout au long du film. Et certaines scènes me semblent tout à fait inutiles. Aux premières images, on comprend ce qu'il va se passer pour le personnage qu'on suit. Donc, ne laisse aucune envie de connaître la suite, car on la connaît déjà. Certes, le réalisateur a pris de gros risques en filmant cette œuvre, mais il aurait pu la tourner différemment, de façon à ce qu'on s'attache davantage au personnage.
Pour poursuivre ce débat, je vous invite à vous rendre au cinéma Cristal de Ronces-les-Bains.
Théâtre. Les élèves de l'option théâtre ont assisté à une pièce à Sainte et vont vous faire part de leur avis.
En début d'année, le théâtre de Sainte a accueilli 2 collectifs, un d'acteur, Ozo, et un d'auteur, Traverse. Ils ont ensemble monté un spectacle sur le piratage informatique, Pavillon Noir. Dans cette pièce, nous suivons l'histoire de 7 hackers qui tentent de rétablir un monde meilleur à l'aide de l'informatique. Avec la classe théâtre de notre collège, nous avons assisté à une de ces répétitions qui nous montra comment travaillent des acteurs pros. Ils se reprennent et rejouent sans cesse la même scène jusqu'à y arriver à la perfection. Les acteurs ont toujours du nouveau à proposer aux écrivains. Rien n'est laissé au hasard, chaque mouvement, chaque déplacement, tout est planifié. Nous avons eu la chance de rencontrer Mathieu Hénard, un acteur du collectif Ozo, qui est venu nous assister durant une de nos répétitions et nous a fait part de son expérience dans son métier, ce qui fut très enrichissant et nous a permis de progresser.
Par la suite, nous avons assisté à la représentation du Pavillon Noir. Nous avons été agréablement surpris du rendu final, qui semblait tout à fait différent de la répétition à laquelle nous avons assisté. Visuellement, le spectacle était très original par la manière de représenter les ordinateurs, sans pour autant en avoir un seul sur scène. Les élèves, suite au spectacle, ont donné leurs avis. Pour certains, leur attention se portait sur l'esthétisme de la pièce, via les lumières, les décors, accessoires, tandis que d'autres sur la profondeur du message avec les dangers d'Internet. Ou bien par la performance des acteurs, notamment par la rapidité des changements de tenue, ou bien par la justesse de leurs actions. En sortant de ce spectacle, on en retient une expérience très forte, lourde de sens, qui continue actuellement sa tournée dans toute la France.
Vous aimez la musique ? Si comme moi vous écoutez du rap ou autre genre de musique, vous avez bien raison. Nos 3 journalistes vont vous expliquer pourquoi.
La musique est omniprésente dans notre vie. Les progrès faits en neurosciences permettent désormais aux chercheurs de mieux appréhender la musique. Elle s'avère parfois indispensable au bien-être de l'homme et on l'intègre dans certaines thérapies. Savons-nous réellement pour autant comment nous percevons la musique et comment cette information est traitée par notre cerveau ?
Le plaisir ressenti en écoutant la musique entraîne la sécrétion de dopamine dans le cerveau si la musique est appréciée. La dopamine est un neurotransmetteur qui a pour action de compenser des plaisirs comme la nourriture ou les addictions. Des chercheurs de l'Université de Montréal l'ont mesuré à l'aide d'appareils comme l'IRM fonctionnel, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.
Ils ont ainsi pu visualiser la sécrétion de dopamine et l'activité du cerveau sur 10 de volontaires âgés de 19 à 24 ans. Ceux-ci ont éprouvé des frissons en écoutant de la musique. Un exemple, Siegfried de Francocéan. Grâce à cette musique, les personnes sont moins tentées de se droguer. Les recherches en neurosciences touchent aussi des domaines comme la biologie, la chimie, les mathématiques et la pédagogie.
Manga. Chaque semaine, le club manga se réunit au collège. Je laisse place à Max, Baptiste et Madame Roy qui vont vous présenter leur avis de lecture.
Je vais vous présenter Master Keaton. Ce manga a été créé par Naoki Urozawa et Okuza et Katsushika. Il est sorti en 1988 en 18 tomes. C'est l'histoire de Taishi Hiraga Keaton qui travaille dans l'industrie Oxford avant de rejoindre les Special Air Service. On va suivre ses aventures à travers l'Angleterre en tant qu'agent d'élite. J'adore ce manga car les graphismes style ancien sont vraiment travaillés. L'histoire est très prenante avec de bonnes intrigues et des retournements de situation incroyables. Et toi, Baptiste ?
Moi, j'ai bien aimé Green World Z. Green World Z est un shonen dessiné en 8 tomes par Yusuke Osawa, sorti en 2013 au Japon. Akira, le protagoniste, part à Tokyo en train pour rendre visite à sa copine. Une fois arrivé là-bas, la nature reprend le contrôle sur les humains. C'est là que le cauchemar commence. Les graphismes sont excellents, l'histoire est bien menée, l'intrigue est haletante. Je le conseille aux amateurs de suspense fantastique.
Mon coup de cœur s'appelle To Your Eternity de Oima Yoshitoki. Ce manga paru en 2016 au Japon et édité en 5 tomes en France pour le moment. Ce manga parle d'une sphère extraterrestre pouvant prendre l'apparence d'objets ou d'êtres inanimés. J'ai bien aimé ce manga car l'histoire est très prenante, passionnante et très surprenante. Nous avons tous les trois découvert Green Priest Imhotep grâce au club manga du collège. Ce manga est style shonen, se déroulant à Tokyo. Une fille du nom d'Inome rencontre Im et accepte gentiment de l'héberger quelques jours. C'est à ce moment qu'Im lui révèle sa réelle identité. Il s'agit du plus grand criminel et du plus grand prêtre sorcier d'Égypte ancienne.
Que pensez-vous de ce manga ?
Le manga en soi est sympathique, mais l'histoire ne me plaît pas tant que ça, parce que toutes ces histoires de dieux déesses me perdent.
Pour moi, ce manga est vraiment intéressant. J'aime bien l'histoire, mais le seul défaut que j'ai trouvé, ce sont les créatures que je trouve un peu trop enfantines.
Personnellement, je trouve ce manga très bien. Ayant lu les 7 tomes en version française, je trouve le manga de plus en plus intéressant et l'histoire se construit vite et efficacement au fil des tomes. Pour ma part, je trouve certains personnages très charismatiques, car Imhotep, Inome ou Menjezer.
Je pense que le manga devrait avoir plus de combats et les créatures devraient plus ressembler à des monstres qu'à des insectes faciles à battre.
Je suis d'accord avec toi. Je trouve que les créatures ne font pas assez ressentir la peur, qu'elles devraient ressembler à des horreurs immenses.
Moi, je pense qu'il ne faut rien changer, mais juste éditer plus de tomes. J'attends la suite avec impatience.
Si on devait lui donner une note sur 10,
je lui mettrais 8,5 sur 10.
Moi, 7 sur 10.
Et moi, 5 sur 10.
Merci d'avoir écouté notre radio.
Nous remercions aussi Samuel Payet, Monsieur Bonin et Monsieur Chevalier pour avoir pris le temps de nous avoir rencontrés.
Nous remercions aussi notre équipe technique, Océane, Jérémy, Emma, Baptiste, Benjamin, et à bientôt sur CFG.
CFG.